Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Soins palliatifs, euthanasie, suicide assisté, le président de la République Emmanuel Macron a accordé un entretien exclusif à La Croix et Libération. Il dévoile le projet de loi sur la fin de vie qui sera débattu avant cet été 2024. Le texte ne fera donc référence ni à l'euthanasie ni au suicide assisté. Le terme que nous avons rendu, répond le président, est celui d'aide à mourir parce qu'il est simple et humain. Le terme d'euthanasie désigne le fait de mettre fin au jour de quelqu'un avec ou même sans son consentement, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Ce n'est pas non plus un suicide assisté qui correspond au choix libre et inconditionnel d'une personne de disposer de sa vie. Le nouveau cadre propose un chemin possible dans une situation déterminée avec des critères précis où la décision médicale a son rôle à jouer. Les patients majeurs capables d'un discernement plein et entier, atteints d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et subissant des souffrances réfractaires ne pouvant être soulagés, pourront demander à pouvoir être aidés afin de mourir, a précisé le chef de l'État aux Deux Quotidiens. Les mineurs et les patients atteints de maladies psychiatriques et neurodégénératives qui altèrent le discernement comme Alzheimer en seront donc exclus. Extrait d'un article du journal Le Monde. Le président cite un passage du projet de loi pour expliciter sa philosophie. Extrait d'un article du Figaro. L'administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même ou lorsque celle-ci n'est pas en mesure d'y procéder physiquement à sa demande, soit par une personne volontaire qu'elle désigne lorsque aucune contrainte d'ordre technique n'y fait obstacle, soit par le médecin ou l'infirmier qui l'accompagne. Autrement dit, le nouveau modèle de la fin de vie n'exclut aucune des deux voies, relate le président.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
Inauguration cette matinée du 8 mars de l'exposition « L'ombre et la lumière, l'empreinte des femmes dans le Beaujolais du 15e siècle à nos jours » à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, un engagement fort des chefs de juridiction.
France Rousier, présidente du tribunal de Villefranche-sur-Saône.
Laetitia Francard, procureure de la République de Villefranche-sur-Saône.
Très féminine et très représentative de l'institution judiciaire et du monde du droit, puisque la féminisation, elle débute dès les études. Les amphis de droit sont pleins de femmes et elles se poursuivent assez logiquement, du coup, dans les écoles professionnelles, écoles d'avocats et écoles de la magistrature et écoles des greffes. Et donc à Villefranche, nous sommes très représentatifs, puisqu'actuellement, sur les 11 magistrats de la juridiction, côté siège, nous ne sommes que des femmes titulaires.
Les chefs de juridiction conviaient des femmes influentes du Beaujolais afin de souligner leur engagement.
Oui, il nous tenait à cœur, du fait de la composition aussi de notre juridiction, de marquer cette journée internationale des droits de la femme par une exposition et par la promotion de ces femmes qui ont pu marquer le Beaujolais. C'était pour nous l'occasion aussi d'inviter des personnes actuelles, des femmes qui marquent aujourd'hui le Beaujolais de leur action.
Oui, alors nous avons invité deux anciennes bâtonnières du barreau de Villefranche. Nous avons également invité des juges consulaires qui sont donc des entrepreneuses qui font le choix par ailleurs de s'engager pour l'institution judiciaire et rendre la justice de manière bénévole dans les contentieux commerciaux. Nous avons invité des élus de la mairie de Villefranche-sur-Saône. Nous avons invité une sportive de haut niveau, notre gagnante du marathon du Beaujolais de l'édition 2022. Nous avons également invité des agricultrices, viticultrices, monde du média, monde du soin, de l'association, toutes des femmes qui ont des responsabilités, qui font vivre aujourd'hui, aux côtés des hommes évidemment, le Beaujolais tel que nous le connaissons.
L'exposition rend hommage aux figures méconnues comme aux femmes illustres du Beaujolais d'hier et d'aujourd'hui.
Oui, alors cette exposition reprend les femmes qui ont marqué le Beaujolais depuis le 15e siècle et effectivement, trois catégories de femmes se dessinent à l'aune de cette exposition. Les femmes d'influence, les femmes vertueuses et les femmes d'action qui, selon l'exposition, représentent les femmes de 1951 à nos jours. jour.
La détermination de la juridiction en matière de protection des violences conjugales et de la maltraitance intrafamiliale.
Alors c'est une politique qui est menée conjointement par la juridiction et principalement par Madame la procureure en termes effectivement de protection des femmes victimes de violences, que ce soit dans la détection, ensuite dans la poursuite et la prise en charge des auteurs violents et surtout la poursuite de la protection des femmes sans ne négliger la situation des enfants qui se trouvent dans ces foyers confrontés à la violence.
C'est une priorité du gouvernement qui a été réaffirmée depuis 2019, depuis le Grenelle des violences conjugales, que nous appliquons bien naturellement à décliner sur notre territoire. Et donc l'action de l'ensemble de la juridiction, et je tiens à saluer avec Madame la Présidente aussi l'ensemble des partenaires, parce que tout seul, nous n'avons pas forcément les moyens de tout mettre en place, notamment dans la prise en charge des auteurs, dans la protection des femmes victimes de violences. C'est vraiment un travail de coordination qui doit être mis en place et auquel nous nous attachons actuellement.
Située à l'accueil du tribunal, l'exposition reste ouverte au public.
Tout à fait. Le souhait de notre tribunal, c'est de ne pas apparaître comme un lieu fermé dans lequel il faut éviter de se rendre, mais de comprendre que le tribunal fait partie de la vie des citoyennes et des citoyens. Et l'exposition est donc ouverte au public. Donc nous invitons chaque personne intéressée à pousser les portes de notre juridiction, à venir visiter l'exposition, à venir lire les panneaux et à prendre conscience qu'un lieu de justice, c'est aussi un lieu de vie, c'est un lieu démocratique.
Et à tous les âges de la vie, j'allais presque dire.
Je pense que les actions de sensibilisation, parce que c'est d'abord une question d'égalité hommes-femmes, doivent être entreprises dès le plus jeune âge. Et donc, même si les écoles aussi veulent venir faire une visite, nous pouvons nous organiser. En tout cas, il est important pour nous de signifier, comme vous l'avez rappelé, que c'est à tous les âges que ce sujet se pose.
L'exposition L'ombre et la lumière, l'empreinte des femmes dans le Beaujolais du 15e siècle à nos jours, est une collaboration avec la Maison des Mémoires en Beaujolais, dans le cadre du label Pays d'Art et d'Histoire. Une visite guidée de l'exposition avec un agent du patrimoine et les témoignages des invités qui participent activement dans tous les milieux.
Je vais vous parler plus particulièrement des chanoinesses d'Alix et de Salles. En fait, cette deuxième séquence, elle s'ouvre officiellement en 1753, au moment où Louis XV va accorder le titre de comtesse aux chanoinesses d'Alix.
On travaille dans le milieu, parce qu'on a affaire à pas mal de violences sexistes et sexuelles dans le cadre de notre travail, et du coup c'était important pour nous d'assister, montrer que déjà on était là, et puis apprendre plein de choses, comme là avec l'exposition. Voilà. Dorian Turquois, juriste, attendez, c'est une aide aux victimes, on voit beaucoup de victimes, violences conjugales, sexistes et sexuelles.
Alors, il faut savoir qu'à une époque où finalement les femmes ont peu de liberté, ces chanoinesses vont jouir de certains privilèges. Donc déjà, elles sont issues de familles nobles, pour la plupart d'entre elles. Elles vont donc pouvoir recevoir des revenus, des chapitres. Par exemple, à Alix, on y trouve un puits, on y trouve des bois qui vont être source de revenus pour ces chanoinesses. Elles peuvent se faire construire également des maisons individuelles. Elles peuvent recevoir, donc avoir toute une sociabilité, se déplacer. Et elles reçoivent également une bonne éducation.
Oui, alors moi, je travaille avec Juliette Jouniau, qui est invitée, dont je représente le collectif Misfit. Puis je m'intéresse aussi énormément aux femmes, au combat des femmes. J'ai moi-même aussi un projet autour des femmes qui met en valeur toutes les voix des femmes. Et puis, je me suis appuyée sur les écrits de Titou Lecoq, justement, ces grandes femmes oubliées. Voilà, de retracer un petit peu l'histoire de ces femmes qui ont été un petit peu invisibles depuis des siècles. Exactement, et c'est ce qui m'intéressait, c'est de connaître aussi toutes ces femmes du Beaujolais aussi. Donc, c'est vraiment une très, très belle exposition. J'y suis Stéphanie Manu.
Alors, on vous a mis ici deux portraits. Le premier de Madame de Ruffet. Madame de Ruffet est la dernière prieure de Salles. Et à son décès, elle va laisser une vingtaine de lettres qui témoignent de son attachement pour le chapitre. Et puis la deuxième ici, Marie-Jeanne Félicet de Savelli de Cazeneuve, qui elle donc intègre le chapitre d'Alix et qui est issue d'une riche famille de Rome.
J'ai répondu volontiers à l'invitation du TGI, étant juge consulaire au tribunal de commerce de Villefranche. Nous sommes actuellement trois femmes au sein de cette juridiction, donc il était vraiment important d'être représentée. De plus, commerçante à Villefranche. Effectivement, journée de la femme, une deuxième raison pour venir, et puis c'est toujours intéressant donc de connaître toutes ces femmes depuis X années et siècles qui ont participé au développement de la Calade. Alors c'est un peu dommage d'être quantifié qu'aux femmes, mais à la fois on a besoin de se retrouver entre nous, c'est un peu pour avoir plus de force. Après, l'événement est porteur, je pense, à l'avenir, de mettre encore un peu plus en avant les femmes, et c'est un peu dommage d'être obligé de faire des manifestations pour le souligner.
Passons maintenant en revue l'actualité sportive. Eddy, que s'est-il passé sur les stades de notre territoire le week-end dernier ?
Il s'est passé plein de choses, mais malheureusement, le football club Villefranche-Beaujolais, lui, ne parvient toujours pas à stopper la spirale négative engagée déjà depuis 3 semaines. Et vendredi 8 mars, malheureusement, ils reviennent de déplacement, nos Tigres à Orléans, avec une nouvelle défaite sur la pelouse du 6e du classement du championnat national 1. Ils concèdent 2 pénaltys dans le temps additionnel de la première mi-temps tout d'abord, et puis à la 64e minute, dans un match, on le devine, très fermé, où il ne s'est hélas pas passé grand-chose. Alors désormais, pour les Tigres, il faudra regarder plutôt vers le bas, et donc lutter pour le maintien, puisque ils sont désormais 12e du classement, même s'ils ont encore un match en retard à récupérer. Et puis, de son côté, dans le même temps, eh bien, le Gol FC, lui, toujours en National 1, a réalisé sur son terrain une très belle prestation, et ça tant mieux, en dominant largement Avranches, qui est un rival direct, là toujours pour le maintien en National 1. Raspantino a ouvert la marque dès la 11e minute, à la 14e, c'est Mdaoma qui avait doublé la mise. Raspantino marque encore juste avant la mi-temps, donc il y avait déjà 3-0 à la pause. Les Normands vont réduire un tout petit peu l'écart, mais sur un pénalty de Fichten un peu plus tard en deuxième période, donc la victoire était scellée, 4-1. Une très belle opération pour les Chasselois qui rejoignent leurs visiteurs à la 13e place du classement, celle de premier relégable. Du côté du complexe sportif de l'escale d'Arnas, on a bien sûr joué au rugby dimanche 10 mars, et le CS Villefranche n'a, comme on pouvait s'y attendre et l'espérer, laissé aucune chance à leurs visiteurs du Paris Université Club. Un match donc pour la 19e journée en Fédéral 1. Les Caladois qui se sont fait plaisir, ils ont marqué 34 points et ils ont donc pris le bonus, et ils n'ont encaissé et concédé qu'une petite pénalité du PUC. Alors les voilà remontés à la 5e place, ce qui est leur meilleur classement depuis le début de la saison, et ils ne sont plus qu'à 3 matchs de valider une historique qualification pour la phase finale de Fédéral 1. Notre CSV, qui, rappelons-le, avait d'abord pour objectif uniquement le maintien. Donc, bravo. En revanche, le RC Belleville en Fédéral 3 a une nouvelle fois chuté à l'extérieur. C'était dimanche, évidemment, et cette fois, c'était à Lons-le-Saunier, les leaders de cette poule de Fédéral 3, 32-10. Il n'y a pas eu photo, et ils se sont fait rejoindre au classement à la 2e place par Monceau-les-Mines. Attention, il faudra bien finir pour se qualifier directement pour la suite, donc pour le RCB.
D'autres résultats à nous faire partager, Eddy ?
Oui, alors toujours à Lons-le-Saunier, mais cette fois dans le gymnase, puisque Beaujolais Basket se déplaçait pour un bien périlleux déplacement là-bas, chez un poursuivant immédiat en championnat national 2. Et ils ont proposé une copie très très pâle, c'est le moins qu'on puisse dire. Les joueurs de Beaujolais, certes privés de 2 de leurs principaux shooters, c'était samedi 9 mars, mais ils se sont inclinés logiquement, 55 petits points marqués seulement. Mais ils conservent tout seuls la tête du classement, puisque les rivaux ont tous perdu. Mais ça se resserre, c'est incroyable ce championnat de National 2. Il y a 8 équipes à ce stade de la compétition qui se tiennent en 2 points. Et il ne reste que 6 journées avant la fin. Donc vraiment, suspense total dans cette division. Attention, Beaujolais Basket, il va falloir bien finir pour éviter, hélas, de mal terminer cette saison régulière. En National 3, la Starar a enchaîné, en revanche, à la maison samedi soir, donc à la salle Robert Maga, un 2e succès consécutif devant Nuit-Saint-Georges, et ils s'éloignent donc ainsi de cette zone dangereuse avec laquelle ils avaient un peu flirté cet hiver, en remontant à une belle et bien consolidée 7e place du classement. Un dernier résultat, Sylvie, qui nous intéresse énormément, il concernait nos loups du vélo club Villefranche-Beaujolais, qui avait l'un des rendez-vous les plus importants de ce début de saison, la première manche de la Coupe de France de Division 1. C'était en Charente, à l'occasion de cette nouvelle édition du Tour des 4B Sud-Charente à Barbezieux-Saint-Hilaire. 172 km à parcourir, un parcours assez vallonné, même s'il y avait beaucoup de plats. Une course qui a été très animée, comme toujours, dans ces Coupes de France. Et la bonne échappée, Théo Thomas, l'homme en forme du VCVB, avait réussi à la choper. Et jusqu'à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, il était encore dans le coup. Simplement, c'est un coureur rouennais, le VC Rouen et le gros favori de la compétition cette année. Florentin Le Camus s'extirpe tout seul lors d'un contre, au moment d'un resserrement, et il va l'emporter en solitaire avec quelques secondes d'avance sur les autres. Et le Canadois Théo Thomas donc se contente de la 5e place. C'est tout de même un beau résultat puisqu'il marque les premiers points du VCVB dans la Coupe de France. C'est un bon début, 4e au classement à l'issue de cette première manche. Voilà pour les résultats.
Quels sont les rendez-vous de la semaine avec nos équipes locales?
Une semaine encore bien chargée qui nous attend avec un double rendez-vous d'abord pour les Tigres donc, du Football Club Villefranche-Beaujolais qui vont continuer de mettre le calendrier à jour en se déplaçant mardi 12 mars à 19h30 du côté de Rouen. Ça ne va pas être facile, il va falloir essayer d'être un peu plus efficace en attaque. Et puis ils enchaîneront, alors non pas ce week-end, mais exceptionnellement lundi 18 mars, de manière à avoir un peu de temps de récupération. Match à 21h au stade Armand Chouffet. Attention, c'est un horaire un peu particulier. Lundi 18 mars, 21h. Donc, pour recevoir, c'est la grosse affiche, le Red Star qui caracole en tête du championnat national 1. Double rendez-vous donc avec les Tigres. Les joueurs du Gol FC, eux, seront en déplacement vendredi 15 mars, comme à l'accoutumée, à 19h30. Ils se rendent à Châteauroux. Là encore, il y a moyen de prendre des points chez un mal classé pour essayer de s'extirper de la zone dangereuse. Ça, c'était pour les stades.
Et pour les autres disciplines sportives?
Alors, on va retrouver le championnat de France de handball féminin cette semaine, samedi 16 mars, Saint-Julien, Denis Séglaizé, nos violettes reçoivent, attention à l'horaire, 18h30 à la salle Saint-Roch, l'équipe de Saint-Germain-Blavozy, quatrième du championnat national 2. Donc, belle affiche là également pour le handball féminin. Nous aurons un rendez-vous très important avec Beaujolais Basket ce week-end, mais c'est un rendez-vous crucial, puisque c'est le plateau qui va permettre de disputer les quarts, puis coup sur coup, les demi-finales du trophée Coupe de France, qui envoie le vainqueur de ce plateau en finale à la fameuse Accor Arena de Paris-Bercy fin avril prochain. Rappelons que Beaujolais Basket s'était hissé jusqu'à cette finale la saison passée. Alors, les Bleus joueront à 17h15, c'est à Sorgues, dans le Vaucluse. 17h15, donc, le quart de finale contre le CS Gravenchon, qui est bien placé dans une autre poule de National 2. Et en cas de victoire, ils rejoueront dimanche après-midi, donc le 17 mars, s'ils s'en sortent, contre le vainqueur de l'autre quart de finale, US Rognonaise, Hoche Basket Club. On jouera au volleyball ce week-end, avec deux déplacements pour le VBVB, les masculins en National 2. Les Caladois se rendent à Aix en Provence contre le Aix UC13. C'est à 14h dimanche 17 mars. Et puis les féminines du VBVB, elles, toujours à 15h, seront au VC Chenauve. Je termine les rendez-vous avec une nouvelle classique pour nos cyclistes du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. C'est le 16 mars, samedi, le Grand Prix de Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans l'Allier, je crois, de bonne, il me semble. En tout cas, l'un des grands classiques de la saison. Une course toujours très animée, très intéressante, avec de nombreuses équipes élites. Voilà pour le programme.
Merci Edien pour cette page sportive.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.